Chers téléspectateurs, bienvenue à l'épisode numéro 9. Et oui, nous sommes déjà au 9e épisode de votre web-émission « Les engagés de l'innovation sociale ». Comme vous le savez, le but de cette web-émission est d'engager un débat riche, constructif et systémique sur l'innovation sociale au Maroc. Et pour cela, nous invitons pour vous toujours les intervenants et les différents acteurs de l'écosystème. Donc après avoir traité des thématiques diverses, comme par exemple le cadre réglementaire de l'innovation sociale, son système d'accompagnement, ses mécanismes de financement, son ancrage territorial, aujourd'hui, l'épisode que nous vous proposons là est très intéressant et aussi très passionnant. Il est celui de la transformation digitale au service de l'innovation sociale au Maroc. Nous avons invité pour vous deux invités de marque. À ma droite, Madame Selma Karim, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Selma Karim, vous êtes chef du département capital humain et innovation à l'Agence de développement du digital, l'ADD, et vous êtes également acteur associatif dans le domaine de l'inclusion digitale au Maroc.
Effectivement.
Marhaba avec.
Merci. Merci.
J'ai à ma gauche Sena Sarkhtani, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un honneur pour moi.
Sena Sarkhtani, vous êtes entrepreneur et vous êtes également acteur associatif dans le monde de l'économie digitale.
Absolument.
Marhaba avec.
Merci.
Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, coutume l'oblige, au niveau des engagés de l'innovation sociale, nous démarrons chaque épisode avec un petit commentaire sur une actualité. Et l'actualité que nous vous proposons aujourd'hui, elle est par rapport au dernier rapport sur l'écosystème digital qui a été livré par Autosaisine par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE pour les plus intimes, et dans lequel il dresse différentes recommandations allant de la modernisation des services publics à travers la digitalisation des procédures administratives, allant également à comment accélérer le chantier de développement et de l'adoption du mobile banking et de l'inclusion financière. Donc un rapport très intéressant et je voulais avoir votre avis, votre réaction par rapport à cela. Et Madame Karim, je démarre avec vous. Quel retour, quelle lecture faites-vous de ce rapport du CESE sur le digital au Maroc ?
Très bien. Donc pour l'autosaisine du CESE, donc elle parle globalement de la transformation digitale, ce que le Maroc a bien fait, ce qu'il a raté entre-temps à partir des stratégies qu'il y a eu depuis 2013 jusqu'à présent et après la création de l'Agence de développement du digital. Ça parle beaucoup sur l'inclusion, comment faire cette inclusion, est-ce qu'on est inclus par le numérique au Maroc actuellement, des enjeux liés à l'intelligence artificielle où l'autosaisine, elle recommande de pouvoir positionner le Maroc par rapport à l'IA. Elle trouve que c'est un chantier quand même important. Ça tombe bien, à l'ADD, c'est un chantier prioritaire et nous œuvrons pour la mise en œuvre pour un écosystème d'IA intégré au Maroc. Donc, pour ce qui est de cette transformation digitale, elle concerne tous les secteurs. Et l'autosaisine, elle parle de l'ADD et ça serait peut-être l'occasion d'en parler et d'expliquer à tous les téléspectateurs que cette agence a été créée en vertu de la loi 71-16 et qui a pour principale mission, c'est de mettre en œuvre la stratégie de l'État en termes de digitalisation. À la fois pour l'économie, pour la société et pour l'administration, à travers trois socles transverses qui sont la réglementation, l'infrastructure digitale et le capital humain. Donc, pour ce faire, en fait, l'ADD met en œuvre un certain nombre de chantiers et de projets qui visent à catalyser la transformation digitale. Donc, auquel cas, quelle transformation digitale si on parle du secteur de l'économie sociale et solidaire? Donc, c'est un secteur à vocation sociale, il a un impact très solidaire et éthique sur le citoyen. In fine, il a subi, comme tous les secteurs, l'impact Covid, donc il a dû s'adapter par rapport aux outils de la transformation digitale, mais quelle transformation digitale pour les territoires et pour le citoyen? Donc c'est peut-être l'occasion d'en parler plus en détail dans cette émission.
Voilà. On aura l'occasion pour ça. Sena Sarkhtani, votre réaction par rapport au rapport du CESE, je pense paru en début d'année, janvier ou quelque chose comme ça. Quel regard portez-vous sur ce rapport et quelles sont ses principales conclusions?
Écoutez, le rapport tombe à pic. Je pense que c'est une très bonne chose que le CESE s'auto-saisit de ce sujet qui est primordial et en particulier juste après la crise qu'on vient de suivre. il y a des choses intéressantes dans le rapport. D'abord, le rapport fait un point d'étape de là où est le Maroc dans sa stratégie digitale. Donc, on regarde ce qui a été fait et il y a de très belles choses qui ont été faites, dont il faut être fier. Je pense qu'il y a un cadre réglementaire qui a été développé, qui est assez intéressant. Donc, on a développé un ensemble de mécanismes qui permettent de développer l'économie digitale dans le pays. Il y a un ensemble de programmes qui ont été développés. Ceci dit, le CESE met aussi en lumière les difficultés parce qu'on a démarré tard, parce qu'on n'a pas nécessairement priorisé et donné tous les moyens qu'il fallait pour accélérer. Il met en lumière aussi les problématiques d'infrastructure que nous avons, qui doivent être améliorées, etc. Donc, il y a tout un tas de sujets, et en particulier la problématique de l'inclusion digitale qui est au cœur du sujet. En même temps, je salue cet effort. En même temps, c'est facile de pointer aussi les éléments de importants qu'on aurait aimé voir dans le rapport.
Par exemple.
Alors, pour ma part, nous sommes à une époque où le digital est la première économie du monde. Elle dépasse l'industrie automobile, elle dépasse le pétrole, elle dépasse la pharmacie, etc. C'est très, très, très grand. Ouais. Présente presque de 20% du PIB mondial, avec une accélération qui est supérieure à toutes les autres industries. Donc, la vraie question pour nous, qu'on aurait aimé aussi voir dans le rapport, c'est comment est-ce qu'on transforme notre économie. Et non pas comment simplement on utilise le digital pour transformer l'administration, parce que c'est essentiel, mais aussi comment on transforme fondamentalement l'économie. Comment est-ce qu'on va avoir demain peut-être 1 million d'emplois dans le digital, ou peut-être plus? Comment est-ce que le digital va être inscrit dans l'ensemble de ce qu'on fait de manière économique? Mais aussi, comment est-ce qu'on va produire du digital, qu'on va être un acteur mondial du digital? J'aurais aimé voir ce côté-là important, mais il pointe le sujet de l'inclusion digitale dont on va parler probablement maintenant.
Très bien, top. Madame Selma Karim, aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc s'est développé quand même d'un point de vue digital et notre société se dématérialise de plus en plus. Ce qui entraîne, je dirais, in fine et inévitablement, une certaine fracture digitale, peut-être entre le rural et entre l'urbain, peut-être entre la côte atlantique du pays et les autres régions, un peu beaucoup plus à l'ouest. Donc cela regroupe des inégalités territoriales, telles que par exemple l'accès à un ordinateur, l'accès à l'Internet. Cela par exemple peut-être des inégalités même dans l'usage de ces outils. Donc cette fracture aujourd'hui digitale que nous avons, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que nous avons des chiffres et des statistiques là-dessus? Et comment est-ce qu'on peut faire pour la réduire un peu, pour pouvoir inclure le maximum de Marocains et de Marocaines digitalement?
Effectivement, je vous remercie pour cette question très pertinente. Donc, capitalisons sur le sujet de l'émission qui est l'économie sociale et solidaire. Donc, la fracture numérique, c'est une réalité, parce que le Maroc est un pays en voie de développement, c'est un pays qui est ancré dans le continent africain et qui vit les mêmes circonstances des pays qui sont dans la même situation socio-économique. Auquel cas, le digital a plusieurs vitesses. Au Maroc, on en est conscient. Dans les villes, c'est différent du périurbain, du rural. Des populations sont incluses, d'autres le sont un petit peu moins de par leur proximité des centres socio-économiques. Donc, c'est une réalité. Comment pouvoir un petit peu remédier à cette condition? Donc, c'est aussi à travers des actions bien évidemment gouvernementales, à travers les acteurs à la fois privés et publics qui sont dans le sujet de l'inclusion sociale, mais aussi en capitalisant sur le volet d'innovation que porte le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est ces acteurs-là qui ont un accès direct aux populations locales, aux problématiques locales et qui peuvent faire jouer la technologie en faveur de cette population et de ces territoires et répondre d'une façon très innovante aux problématiques de développement liées à l'inclusion de plusieurs façons possibles, qu'elles soient digitales, mais qu'elles soient socio-économiques également. Donc, pour pouvoir le faire, donc, les sociétés et plutôt les associations, les fondations, les coopératives et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire gagneraient à explorer le monde de la transformation digitale, avec lequel ils ont beaucoup de points communs, parce que l'innovation en est une. L'innovation sociale, qui est un propre à l'économie sociale et solidaire, mais l'innovation, c'est le cœur de la digitalisation, L'agilité aussi, c'est un point commun entre les deux secteurs. Donc, les acteurs de l'économie sociale et solidaire gagneraient à explorer ce que le digital pourrait leur offrir pour pouvoir matcher avec leurs objectifs sociétaux, éthiques et solidaires en termes d'exploration de problématiques de développement et de problématiques sociales. Donc, voilà ma vision un petit peu des choses relativement aux entreprises sociales et solidaires et comment la transformation digitale à travers une inclusion peut aider à la résolution de problématiques sociales.
C'est vrai que l'économie sociale et solidaire, elle regroupe une multitude d'acteurs. Nous avons associations, coopératives, mutuelles, mais également même des entreprises classiques, mais à fort impact social aujourd'hui. Ils peuvent être considérés comme des acteurs de l'ESS. Et c'est vrai qu'ils ont ce défi de se transformer digitalement. Mais pour les plus novices, je dirais, pour les non-initiés, c'est là ça. Qu'est-ce que c'est que le fait de se transformer digitalement? Il y en a ceux qui pensent que créer un site web et avoir une présence sur le social media, ça y est, le tour est joué, je suis dans le digital. Donc, à partir de quel moment est-ce que je peux dire que j'ai réussi ma transformation digitale? Ça consiste en quoi réellement?
C'est une question très, 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 très vague. Je pense qu'on commence... les usages digitaux... sont très, très nombreux, qu'ils soient pour une association, pour une entreprise, grande ou petite, pour un être. Il y a plusieurs scénarios de l'utilisation du digital. Okay. Mais le plus important, c'est, avant de dire quel est le bon scénario ou la pas le bon scénario, c'est de se dire quel est l'impact de ce scénario.
Très bien.
Parce qu'on ne va pas faire du digital que pour faire du digital, on va faire du digital à impact. Mmh. On va faire du digital à impact qui va nous aider à aller plus vite, qui va nous aider peut-être à nous exporter plus, ou à nous exposer plus, pour aller plus loin, etc. C'est ça, en fait, le vrai souci. C'est pas, on fait pas du digital. Je vais pas faire un site web si personne ne le visite. Ça, je l'aurais fait, c'est pas intéressant. Donc, le vrai sujet de la transformation digitale, c'est l'impact et le retour sur investissement de cette transformation. Et ça, c'est qu'il soit pour un petit acteur, ou pour l'État, ou pour une grande entreprise. Ça ne change pas le sujet. Je pense que c'est important de garder ça en tête.
Très bien.
Donc le vrai sujet pour une entreprise sociale, c'est de se dire où est-ce que je vais avoir de l'impact, quel impact je vais avoir et comment le digital, comment je vais aller puiser dans les technologies digitales pour m'aider à avoir cet impact. Il y a, vous savez, dans l'histoire humaine, je vais essayer de simplifier quelque chose qui me paraît très important, parce que c'est là où on va puiser dans le digital.
Bien sûr.
Dans l'histoire humaine, l'homme a toujours voulu combattre quelque chose. C'est vraiment constant. Mmh. C'est combattre le temps et la distance. On va aller plus vite et plus loin. Mmh. On a inventé tous les moyens pour nous transporter qui nous permettent d'aller plus vite, etc. C'est vraiment quelque chose de très important qui consiste. L'arrivée du digital nous permet de nous transporter à la vitesse de la lumière. C'est la première fois où le temps est réduit à zéro et les distances sont réduites à zéro. Gardons ça en tête. Le temps est réduit à zéro, la distance est réduite à zéro. Quand vous achetez du pétrole, vous devez le transporter avec un bateau qui prend du temps pour arriver. D'accord ? Quand vous avez une donnée, vous la transmettez d'un endroit à un autre de la planète en une fraction de seconde. Donc, le digital, qu'est-ce qu'il nous a permis de faire? C'est ça. Et donc, la question qui est posée pour les acteurs qui veulent utiliser le digital, c'est de se dire, fondamentalement, comment je vais utiliser cet arsenal qui est, le temps n'existe plus et la distance n'existe plus. Et à partir de là, je peux innover. Il y a plein d'innovations possibles et imaginables sur ces deux, sur ça, qui me paraît pour moi assez essentiel. Mais les usages sont nombreux. On peut voir que ce qui se fait dans le monde de l'agriculture, on peut prendre plein de scénarios dans le monde de la du civic tech. Peut-être qu'on pourra en parler de tout ce qui est tech for good. C'est comment la technologie va
le social tech,
etc. Donc la technologie peut être utilisée dans plusieurs schémas, la fintech pour faire de l'inclusion financière. Donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels les technologies peuvent être utilisées pour créer de l'impact.
Très bien. Pourrons-nous dire dans ce cas que le digital n'est pas une finalité en soi, mais un moyen pour nous faire acheminer vers un résultat final, un impact tel que vous l'avez
clairement,
décrit.
Clairement, on ne fait pas du digital pour se faire plaisir. On fait du digital pour avoir de l'impact. On va puiser dans le potentiel du digital pour faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça, en fait, l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce que je dois faire que je ne peux pas faire autrement que par le digital, mais qui a de l'impact. C'est le plus important. Qui a de l'impact.
Qui a de l'impact.
Voilà. Qui a de l'impact. C'est ça, l'enjeu principal.
Très bien, très bien. Madame Karim, la pandémie, la crise pandémique dernière du Covid-19 nous l'a clairement montré. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, surtout là, on s'intéresse aux petites structures de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'entre elles ont avec difficulté survécu à cette pandémie. Et si on s'intéresse au volet numérique, par exemple, ce soit par manque de temps, par manque de moyens financiers, par manque d'expertise RH humaine, ou pour n'importe quelle autre raison, méconnaissance technique, etc., les associations, coopératives, mutuelles et autres, elles ont accusé un retard numérique et s'est accentué avec la pandémie. Il y en a celles qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont utilisé cela à bon escient et qui ont pu, par exemple, doubler leur chiffre d'affaires, toucher beaucoup plus de gens et de communautés à travers le digital, mais il y en a ceux qui ont peiné à voir. Qu'est-ce qui fait qu'une structure de l'économie sociale et solidaire va être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide dans l'adoption, alors que d'autres non? Où est cet élément de différenciation qui fait que des structures vont adopter le digital beaucoup plus vite et d'autres non? Comme ça, on apprend soit des erreurs des autres ou bien des bonnes pratiques de ceux qui ont réussi.
Effectivement, donc Covid avait frappé, il frappe toujours. Donc beaucoup de structures issues de l'économie sociale et solidaire ont pu initier une pseudo-transformation digitale. Il y en a quelques-uns qui l'ont réussi et d'autres moins. Donc il faut dire qu'il y a des prérequis pour réussir la transformation digitale. Il y a de l'appétence pour pouvoir réussir la transformation digitale. Pour pouvoir le faire, déjà, la transformation digitale pour ces structures de l'économie sociale et solidaire, elle doit matcher avec trois principaux objectifs. La première, c'est soit amplifier un petit peu l'impact à travers le fait d'atteindre plus de bénéficiaires ou plus de clients, ou plus de populations, ou bien... Pour deuxième objectif, ça pourrait être pour pouvoir gérer la gouvernance et l'organisation d'une façon optimisée, ou bien pouvoir gérer la partie budgétaire et financière, c'est-à-dire puiser sur de nouvelles sources alternatives de financement ou gérer le financement autrement ou payer autrement. Donc voilà, ça c'est les trois objectifs qui pour moi sont des prérequis. Si la structure avait cette compréhension et avait déjà avancé sur tout ce qui est organisationnel, parce que faire de la transformation digitale pour faire de la transformation digitale, si Nasser l'a dit tout à l'heure, c'est inutile, ça sert à personne. Donc il faut préparer les préalables qui sont les process, l'organisation, le capital humain, la compréhension de ce que c'est que le digital, le type de technologie à utiliser, à optimiser, qui est adapté au secteur d'activité, pour pouvoir amplifier in fine l'impact social. Donc pourquoi quelques-unes ont réussi? C'est juste parce qu'ils avaient les bons préalables. Celles qui n'ont pas réussi ou ont peiné à le réussir devraient revoir cette transformation digitale et ils gagneraient à l'inscrire dans une stratégie globale, à avoir du recul par rapport à cette transformation digitale, parce que ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour amplifier l'impact.
Très bien. Sir, à travers votre regard, et vous avez un regard assez large, 360 sur l'écosystème digital au Maroc, est-ce que au sein de cet écosystème digital, est-ce qu'il y a un sous-écosystème ou bien une communauté digitale, mais pour les associations coopératives, est-ce qu'ils ont, par exemple, des rendez-vous dans lesquels ils se rencontrent? Est-ce qu'ils ont, vous l'avez souligné, vous avez évoqué, Marc, par exemple, soit les organisations qui font de la civic tech, qui font de la fintech, qui font du social tech. Est-ce qu'aujourd'hui, ces communautés existent au Maroc? Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, à nous donner dans ce sens, d'associations, de coopératives, de mutuelles qui ont pu relever le défi, qui se sont constituées en communauté et qui ont des pratiques digitales intéressantes que nous pouvons découvrir?
Honnêtement, c'est très embryonnaire. Je n'ai pas vu un écosystème aujourd'hui organisé, structuré à l'échelle de notre pays pour ça. D'ailleurs, je pense qu'on en a vraiment besoin. C'est quelque chose qu'il faut, où l'ensemble des acteurs doivent se mettre ensemble pour travailler ensemble. Je pense qu'on a besoin d'apprendre à travailler ensemble, de façon générale, entre l'administration et le privé, entre les grands et les petits, etc. Et là, en l'occurrence, on a besoin de construire des écosystèmes qui permettent ce que vous décrivez. Je n'ai pas vu d'expérience waouh qui me permet de dire ces écosystèmes existent. C'est très très embryonnaire. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Madame Kaim sur le Covid, etc. Je vous invite à fermer les yeux 30 secondes. On est le 16 mars 2020. Vous êtes avec moi?
Oui, absolument.
Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet.
Très bien. OK.
2 ans après, on en est où?
Je vois.
On n'est pas là où on est aujourd'hui.
Absolument.
D'accord? Absolument. Le digital nous a sauvés.
Absolument.
Je pense qu'il faut le dire, le digital nous a sauvés. Il a sauvé le pays, il a sauvé des entreprises et il a sauvé les structures dont on parle aujourd'hui, d'entreprises sociales. C'est essentiel. C'est pas un nice to have, c'est pas un truc que ça serait bien que, c'est fondamental. C'est ce qui a permis au monde de continuer à opérer. Et à notre pays de continuer à opérer. Je voulais vraiment faire le point là-dessus parce que c'est important. Alors, certains ont tiré leur épingle du jeu. Certains se sont vraiment développés. Ils ont compris que le digital était leur truc. C'était là qu'ils allaient avoir touché plus de monde, qu'ils allaient... Et puis certains n'étaient pas préparés. Tout simplement, ils n'avaient pas le temps de se préparer, ils n'avaient pas nécessairement intégré complètement la problématique telle que vous l'avez dit. Et je pense qu'il y a un sujet aussi humain, il y a un sujet de compréhension, il y a un sujet de awareness, d'éducation, de formation, de capital humain, de est-ce que finalement, et ça revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le gap digital ou la fracture digitale, elle n'est pas uniquement, c'est vrai qu'elle existe dans les infrastructures, mais en fait, en réalité, même en dehors des infrastructures, on a un gap du fait de la non-préparation humaine. Du côté purement humain, on a un gap. Des fois, on a même certains de nos très grands dirigeants qui ne comprennent pas je pense que pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a un enjeu encore plus important, et Mme Karim le disait tout à l'heure, et je le rejoins, ils sont dans l'innovation sociale, et le digital is about innovation, c'est aussi l'innovation. Donc il y a un point, ils ont toutes les prédispositions intellectuelles pour l'intégrer et aller plus vite que les autres, j'ai envie de dire. Je vous rejoins sur ce sujet-là.
Ça accélère énormément leur social impact et ça fait que leur modèle économique soit beaucoup plus pérenne.
Absolument.
Dans ce cas.
Absolument.
Très bien.
Absolument.
Très bien.
Et Mme Karim a donné les 3 piliers, que ce soit la gestion opérationnelle, etc., toucher plus de monde et tout. Donc, clairement, il y a probablement d'autres sujets, mais ceux-là sont
pertinents.
Je pense qu'il y a un quatrième, si je peux me permettre, c'est le sujet de savoir, c'est de savoir où, c'est-à-dire de décider le sujet, de dire est-ce que j'ai des données qui me permettent de dire par exemple dans quel territoire il faudrait que j'agisse. Et non pas, parce qu'on peut avoir des actions magnifiques, mais peut-être on n'a pas nécessairement ciblé les bons territoires, les projets, parce qu'on n'a pas les données.
Exactement.
Or, le fait d'avoir des données, de pouvoir analyser pour prendre des décisions, va être important. Quand on parle de tech for good,
exact.
Ou de le côté data for good va être aussi important.
Absolument, absolument. Pour moi, pour mieux cibler des régions, par exemple, les populations locales.
Mieux cibler des actions, mieux cibler le moment de le faire, mieux analyser, etc.
Est-ce que parfois constituer la data est une étape préalable à l'adoption d'une solution déterminée, par exemple?
Pas nécessairement, il ne faut pas que ça soit un préalable, mais ça fait partie du process.
Très bien. Je reviens vers vous, Madame Karim. Aujourd'hui, si nous avons des associations coopératives qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent, dès maintenant, aller ne plus être en retard, prendre le flambeau et assurer leur transformation digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, soit au niveau de l'ADD ou ailleurs, est-ce qu'il y a un système d'accompagnement, de formation, de facilitation afin d'aider ces petites structures à se transformer plus rapidement?
Effectivement. Donc, pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils peuvent déjà d'abord se diriger vers l'ADD parce que l'ADD a pour vocation de catalyser un petit peu la transformation digitale du secteur économique, de la société, de l'administration, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous portons plusieurs initiatives. De un, pour pouvoir combler le gap de l'acculturation digitale, de compréhension de ce que c'est que la transformation digitale à travers des offres d'acculturation digitale et de culture digitale que nous mettons à disposition des citoyens, mais aussi des acteurs socio-économiques, donc à travers des plateformes telles que Académie Arakmia, qui a vocation de former le grand public à ce que c'est que le e-commerce en Darija, c'est une première au Maroc. Donc, nous avons aussi une autre plateforme pour pouvoir sensibiliser aux usages de la cybersécurité pour les parents, pour les enfants, c'est Ihimaya. Donc, nous avons une panoplie d'outils déjà opérationnels que nous mettons à la disposition de tous les Marocains et qui peuvent être au bénéfice de cet écosystème de l'économie sociale et solidaire. Aussi, des acteurs de l'économie sociale et solidaire sont aussi des startups sociales. Donc, nous avons une structure qui accompagne les startups au niveau de l'ADD à coup de mentoring, de facilitations diverses et de labellisation aussi. Et ça, c'est une offre de valeur que nous avons également à l'ADD. Donc, il y a des choses que nous développons à l'ADD et l'ADD, c'est une jeune agence. Il y a des choses qui sont en lancement, il y a des choses qui sont déjà lancées et on est vraiment très ouvert et agile à rencontrer ces acteurs et à leur tendre la main pour explorer de nouvelles façons d'entrevoir le digital dans ce volet économie sociale et solidaire et dans les territoires. Parce que c'est une problématique qui est d'actualité et qui est au cœur du développement socio-économique de notre pays, vu que le citoyen est au centre de cette problématique. Et vu que ces structures en commun avec le digital, le volet agilité et innovation, en gagneraient tous à travailler ensemble pour résorber un petit peu la fracture numérique à travers cette association avec ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a ça, mais il y a des acteurs qui font dans les coopératives, qui font dans les entreprises à vocation sociale, c'est des acteurs institutionnels. Et moi, je souligne le fait que l'ADD ne se substitue pas aux acteurs institutionnels privés et publics qui ont vocation à gérer ce secteur. Mais nous, on agit en tant que catalyseur, que fédérateur d'efforts de la transformation digitale, et on est prêt à accompagner tous ces acteurs-là.
Voilà. Très bien. Donc, les associations coopératives et mutuelles qui nous écoutent, elles peuvent aller au site de l'ADD et tout voir aujourd'hui les différentes offres de renforcement de capacité et initiatives que vous proposez.
Exact.
Très bien. C'est dans ce que il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sceptiques, qui sont beaucoup plus critiques, je dirais, qui sont des vrais passionnés de l'ESS. Et ils disent que parfois, cet usage du digital et du numérique fait qu'en général, l'interaction, la livraison du service ou des produits va se faire d'une manière numérique et digital, et que ça enlève cette proximité avec l'humain, ça enlève ce rapport de proximité et cette interaction, je dirais, H to H, human to human. Et parfois, j'en connais pas mal d'associations et coopératives qui sont très sceptiques, qui voulaient parce que ça va un peu nous décoller ou nous déraciner de la réalité du terrain avec les gens avec lesquels on travaille. Donc, par rapport à ces critiques, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les deux vocations ne se contredisent pas en fin de compte? Ou bien est-ce que vraiment ça pourrait, le digital pourrait affaiblir cette proximité avec le bénéficiaire, avec l'être humain dans le territoire?
Je pense qu'on a trop tendance, d'ailleurs il y a un mot que je n'aime pas du tout dans le digital, on parle souvent, depuis 2 ans on parle de réunions virtuelles, tout le monde. Elles sont réelles, ces réunions, elles ne sont pas virtuelles.
Non, elles sont réelles, bien sûr.
Elles sont réelles. Il se trouve qu'on est à distance, mais elles sont réelles. Ouais. Donc, il n'y a rien de virtuel. Et l'idée d'utiliser ces mots-là donne l'impression qu'on est dans des choses distantes. La réalité, c'est que dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans tout acte, et je vous invite à vraiment regarder le moindre acte que vous faites au quotidien, dans cet acte, il y a un bout digital et un bout physique.
OK.
Il n'y a plus... On n'est plus dans un monde ultra uniquement physique, etc. Mais il y a un bout digital. Regardez, pour préparer notre émission, on a eu des échanges digitaux.
Absolument.
À un moment donné, on s'est retrouvé pour l'enregistrer physiquement. D'accord? Et après, elle va être diffusée de manière digitale.
Absolument.
D'accord? Pour aller à la rencontre des gens. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. On est en train de faire une émission. Et donc, dans toute son dans l'expérience d'Yel Hakam, là, Blou, la fin, ben, il y a des choses digitales, il y a des choses physiques.
Absolument.
Et je pense que les associations ou les partenaires, etc., doivent se poser dans cette logique-là et se dire qu'est-ce qui est digital qu'est-ce qui reste humain, d'une certaine manière. On ne les oppose pas. Il n'y a pas lieu de les opposer.
Ils ne s'excluent pas, mutuellement.
Ils ne s'excluent pas, il y en a un qui renforce l'autre. Moi, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté.
Très bien, je voulais avoir cette perspective de votre part.
Regardez, dans n'importe quoi, voilà. Vous avez franchement, sur la moindre petite chose que vous faites de votre vie, il y a un bout digital, il y a un bout physique.
C'est un monde hybride dans lequel
c'est
nous vivons aujourd'hui.
Il n'est pas hybride, il est... Vous savez, notre société est une société qui... notre société humaine a toujours été à la recherche d'innovation technologique. Et on a toujours eu des ruptures technologiques. On est tout le temps... Les ruptures sont de plus en plus fréquentes. Le digital en fait partie. Mais il y a un siècle, c'était le moteur. Et l'électricité. Donc on ne peut pas dire... on se transportait à cheval et maintenant on se transporte en voiture et on va les opposer. C'est deux mondes différents, c'est tout. Et puis là, on est dans un monde où il y en a un qui complète l'autre. Pour moi, il n'y a pas de... Je ne les oppose pas.
Très bien, très bien. Notre émission touche presque à sa fin. Donc, c'est l'heure de la dernière partie qu'on appelle aujourd'hui, c'est une nouvelle émission pour les habitués, le call to action, la recommandation. Donc, Madame Karim, je démarre avec vous. Est-ce que vous avez un call to action adressé à l'écosystème, à la communauté de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, aux innovateurs sociaux, par rapport à leur quête de transformation digitale?
Effectivement, je souhaite m'adresser à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour leur tendre la main et leur dire qu'il y a une agence du digital qui est là, qui développe des produits pour l'ensemble de l'écosystème marocain et qu'on est ouvert pour pouvoir explorer les pistes avec lesquelles on peut porter ce secteur qui est au cœur du développement socio-économique des territoires et des populations. Et auquel cas, nous avons plusieurs initiatives et je vous invite bien évidemment à visiter le site web de notre agence et nous contacter très rapidement pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est un secteur très noble qui a beaucoup d'impact social et éthique sur la population et on gagnerait à le développer pour le bénéfice de notre cher pays.
Très bien.
Merci.
Merci, je vous en prie. Sanassar, quel call to action pour l'écosystème de l'ESS au Maroc?
Je vais en une minute en faire trois. Je vais parler bien évidemment à l'écosystème et aux innovateurs sociaux. Les plus grands challenges de notre société sont les plus belles opportunités. Et c'est dans ces opportunités aujourd'hui qu'on peut utiliser les innovations digitales pour se transformer. Et pour ça, il faut s'adosser aux experts, à des gens qui peuvent vous aider, qui sont nombreux et qui sont là pour vous donner tous les moyens et les outils pour voir comment utiliser le digital pour accélérer l'impact. La deuxième personne à qui je voudrais m'adresser, ce sont les acteurs qui accompagnent et qui mettent en lumière cet écosystème. On a besoin qu'ils travaillent ensemble. On a besoin vraiment de créer des écosystèmes, de réunir nos forces pour qu'on puisse accélérer ce volet d'innovation sociale. Et le dernier à qui j'ai envie de m'adresser, ce sont les institutions publiques. Nous avons besoin d'institutions publiques qui comprennent que nous avons besoin de créer des réglementations qui viennent libérer les énergies de notre pays et qu'on se fasse confiance enfin. On a besoin de créer un système dans lequel on se fait confiance et on enlève la défiance, on élève la méfiance et notre réglementation peut être un moyen de libérer. Donc, libérons les énergies de notre pays.
Très bien. Top. C'est l'instant que tu as dit. Merci beaucoup.
C'est moi qui
merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, acteur associatif dans le monde de l'économie digitale. Merci.
Merci de votre invitation.
Madame Selma Karim, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chef département capital humain et innovation à l'Agence de développement du digital, l'ADD, et vous êtes également acteur associatif dans le domaine de l'inclusion digitale. Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci à l'équipe de la Fondation Abdelkader Ben Salah. Merci à l'équipe technique de Téléplus, notre partenaire médiatique, d'avoir assuré l'enregistrement de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'interagir avec nous sur la sphère digitale, bien sûr, en partageant, en likant, mais également en commentant. Votre avis nous intéresse sur, bien sûr, les différentes plateformes de diffusion, soit de la Fondation Abdelkader Ben Salah ou de Téléplus. Et je vous dis au prochain épisode. Au revoir.